Vous écoutez, on lit pour vous.
Manger local ou végétarien, qu'est-ce qui est meilleur pour la planète? Un texte de Sarah R. Champagne du Courrier de la Planète, paru le 16 janvier 2024 dans Le Devoir. Les questions sur l'impact de différents régimes alimentaires reviennent souvent sous diverses formules dans notre boîte courriel. Sempiternelle, peut-être, mais elle semble continuer à vous préoccuper. Nous avons par exemple reçu un message de Mélissa Fortin qui se demande si manger du bœuf élevé localement est aussi dommageable pour l'environnement que de manger végé, mais pas local. Et un message de Marshall Govindan qui nous demandait de vérifier si les effets de l'industrie de la viande sur le climat sont plus importants que ceux de l'automobile. L'élevage animal est en effet responsable d'une part significative des émissions de GES sur la planète. Preuve en est que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, a déposé un rapport qui souligne qu'il faut impérativement en réduire les émissions en marge de la COP 28 en décembre dernier. Selon les calculs présentés dans son rapport, l'élevage animal est responsable de 12% des émissions totales et de 40% de celles liées à la production alimentaire. On s'attend aussi à une hausse de 20% de la demande des produits issus d'animaux d'ici 2050 à l'échelle mondiale, s'inquiétait la FAO. La réponse courte à la question, du moins par rapport aux émissions de GES, l'empreinte d'un aliment est davantage liée à sa production qu'à son transport. En d'autres mots, ce qui ressort de plusieurs études est qu'un régime végétarien, même avec des produits transportés de loin, émet moins de carbone qu'un régime omnivore avec des produits locaux. Payer ses aliments par livre ou par kilo? Une étudiante à la maîtrise en environnement de l'Université de Sherbrooke a d'ailleurs réalisé ce calcul en 2018 pour le Québec, en plein mois de janvier, ce qui avait beaucoup fait parler. Conclusion. Les quantités de GES émis pour une semaine de régime en fonction des recommandations du Guide alimentaire canadien étaient 13,8% supérieures pour le régime locavore, notait-elle dans son analyse carbone. Nuance. L'alimentation est certes l'un des secteurs sur lesquels les individus peuvent agir rapidement et à leur échelle. Elle représente toutefois moins que le transport, soit 20% contre 35 à 40% des émissions individuelles. À l'intérieur de ce bilan alimentaire, les viandes et les poissons constituent 36% du total, selon le CIREG et Polycarbone. C'est ainsi la catégorie qui a le plus grand impact sur la quantité de carbone émise pour l'alimentation humaine. C'est donc un levier à portée de main qui aura une influence certaine sur l'empreinte carbone personnelle. Mais pour Dominique Lamontagne, ardent partisan de l'agriculture paysanne, ce qu'il aime appeler l'omniculture responsable, manger local ne se défend pas par de simples équations. Autant dans ses livres qu'en nos pages, il affirme qu'une manière de produire non industrielle et une autonomie alimentaire avec des méthodes agricoles durables sont aussi garantes d'un développement des communautés et d'une reconnexion massive des citoyens à la terre. En plus des GES, il faut aussi tenir compte des conditions dans lesquelles les légumes et les fruits importés ont poussé. Est-on en train d'externaliser les effets néfastes de l'utilisation de pesticides à grande échelle, par exemple? Les conditions de travail s'apparentent-elles à du travail forcé à certains endroits? D'autres experts penchent aussi plutôt pour des changements graduels, comme l'a déjà dit au Devoir Carole-Anne Lapierre, agronome chez Équiterre. On n'a pas besoin d'une minorité de gens qui deviennent véganes parfaitement. On a besoin d'une majorité de gens qui vont aller se situer là où ils sont le plus à l'aise sur le continuum de la transition vers un régime végétal. C'était manger local ou végétarien, qu'est-ce qui est meilleur pour la planète? Un texte de Sarah R. Champagne du Courrier de la Planète, paru le 16 janvier 2024 dans Le Devoir.
De l'usage de la parole chez les robots, un texte de Frédéric Landragin, paru en septembre 2023 dans le magazine La Recherche. En quoi les machines parlantes de la science-fiction ressemblent-elles aux robots de compagnie et aux agents conversationnels? Un robot arrivera-t-il un jour à faire comme l'un des cerveaux positroniques d'Isaac Asimov, c'est-à-dire affirmer « je pense, donc je suis » Les robots de la science-fiction ont bien changé. Rappelez-vous de Robbie du film « Planète interdite » Fred Wilcox, 1956, avec ses deux gros bras pointés en avant, son polissage métallique parfait et sa voix semblant provenir d'un vieux téléphone. Lorsqu'on lui demande un peu de whisky, il analyse un échantillon et propose d'en synthétiser 200 litres. Lorsqu'on lui commande une robe de soirée, il demande si elle doit être à l'épreuve des radiations. On s'amuse de ces maladresses de compréhension qui cachent le plus important. Robbie comprend ce qu'on lui dit, raisonne et trouve toujours une réponse, quelle que soit la situation. Le traitement automatique des langues humaines est son point fort. Si vous ne parlez pas anglais, je suis à votre disposition avec 187 autres langues, leurs divers dialectes et idiomes. En science-fiction, les années 1950 sont très productives en termes de robots. On les voit remplaçant l'humain dans des environnements dangereux, l'accompagnant dans ses diverses activités, le servant dans l'intégralité des tâches ménagères jusqu'à l'éducation des enfants. Dans les récits d'Isaac Asimov, les robots discutent avec les humains et les aident parfois à résoudre un problème mathématique, philosophique, voire criminel. Ils sont presque considérés comme des membres de la société. Ce sera le combat personnel d'Andrew dans la nouvelle d'Asimov de 1976, puis le film de Chris Columbus de 1999, L'homme bicentenaire, au point que l'un d'entre eux, surnommé Cutie, en vient à dire « Je pense, donc je suis ». Raison, 1941. Intelligents et conscients, les robots d'Asimov restent, à de rares exceptions près, bienveillants envers les humains. C'est aussi le cas de C-3PO de Star Wars, 1977, qui, au passage, explose le record du nombre de langues maîtrisées, 6 millions de formes de communication. Surtout, les robots sont programmés pour obéir à des règles appelées « lois de la robotique » qui leur imposent de ne pas porter atteinte à un humain, d'obéir aux ordres, sauf si la vie d'un humain est en jeu, et de se protéger eux-mêmes, sauf si, encore une fois, la vie d'un humain est en jeu. Preuve de l'influence majeure d'Asimov, Robbie, de Planète interdite, obéit à ces lois. Au début des années 1980, tout change, notamment à cause de deux films à l'imagerie puissante, Blade Runner, Ridley Scott, 1982, et Terminator, James Cameron, 1984. Un peu comme les réplicants, le T-800 assassin rompt avec le passé. Plus de loi de la robotique, mais une mission à remplir à tout prix, tuer Sarah Connor et peu importe les dégâts collatéraux. Le T-800 parle quand cela sert sa mission, par exemple pour se procurer des armes à feu. Mise en avant du robot tueur, sans scrupules, persévérant et inarrêtable, Terminator marque l'imaginaire de manière définitive. Très, trop intelligent, le robot devient notre ennemi potentiel, de manière beaucoup plus explicite qu'avec HAL de 2001, l'Odyssée de l'espace, Stanley Kubrick, 1968, qui assassine à la suite d'une succession complexe de déductions logiques. Ce qui frappe également dans Terminator, c'est la capacité du robot à prendre connaissance et tirer parti de son environnement ainsi qu'à apprendre de ses expériences. Confronté à une bande de voyous, il répète leurs phrases, on sent qu'il s'en imprègne juste avant de donner ses ordres. L'injure entendue à cet instant, « va te faire foutre, connard », lui servira plus tard dans le film, alors qu'il répare dans une chambre d'hôtel son bras et son œil blessés. Terminator 2, James Cameron, 1991, soulignera cette capacité d'apprentissage que l'on trouve par ailleurs chez, numéro 5, héros attachant du film Short Circuit, John Badham, 1986. Au départ, robot militaire capable de transporter une arme nucléaire. Touché par la foudre, ce robot qui préfigure Wall-E, Andrew Stanton 2008, devient subitement conscient et avide d'apprendre. Numéro 5 passe ainsi son temps à demander des infos. Input en anglais, mais autant dire data. Dès qu'on lui tend un livre, il le lit de bout en bout en quelques secondes et réclame aussitôt de nouvelles données d'apprentissage. On ne parlait pas encore à l'époque de Big Data, or c'est exactement ce dont a besoin numéro 5. Sa boulimie est particulièrement amusante quand il aperçoit de l'autre côté de la rue une librairie. Traversant n'importe comment, il se précipite vers cette source inespérée d'informations. De fortes personnalités. Par rapport aux robots qui les ont précédés, C-3PO, T-800 et numéro 5 possèdent un trait supplémentaire, une persona plus forte, c'est-à-dire des traits de personnalité qui se révèlent à la fois dans leur comportement et dans leurs interactions vocales avec les humains. C-3PO et T-800 peuvent être perçus comme deux extrêmes. Le premier est verbeux, vantard, parle à tort et à travers avec un petit air guindé. Le second reste toujours bref, directif et brutal, jusque dans les quelques mots qu'il prononce, des vêtements vite, vite. Le T-800 donne des ordres et pose des questions brèves et directes, souvent fermé, c'est-à-dire dont la réponse attendue est soit oui, soit non. Sarah Connor, par exemple. Deux scènes typiques de ces films illustrent les personnalités de C-3PO et T-800. Dans Le Retour du Jedi, Richard Marquand, 1983, quand Luke Skywalker, Han Solo et C-3PO sont entourés des Wooks, mammifères intelligents qui ressemblent à des ours en peluche, très agités et parlant dans leur langue inconnue. Luke s'inquiète et demande à C-3PO s'il comprend ce qu'ils disent. Au lieu de traduire simplement et directement, C-3PO répond « Oh oui, maître Luke, n'oubliez pas que je connais 6 millions de formes de communication. » Il faut l'intervention brusque d'Han Solo pour qu'il traduise. Le robot présente ici un comportement typiquement humain. Il suit sa propre intention de mettre en avant ses compétences plutôt que de tenir compte de l'intention de son interlocuteur. Certes, celle-ci est implicite. Luke ne demande pas de traduire, mais juste si C-3PO comprend la langue des Ewoks. Littéralement, C-3PO répond à la question. Sauf que l'intention sous-jacente est une demande de traduction, ce que tout humain peut comprendre. Nous sommes en effet très forts pour identifier l'implicite. On ne saura pas si C-3PO en est également capable et on retiendra donc sa tendance à produire des phrases longues, autocentrées, même dans une situation d'urgence. En comparaison, le robot T-800 semble d'une efficacité redoutable. L'homme d'entretien qui frappe à la porte de la chambre où il se réfugie pour se réparer pose une question. « Hé, mec, qu'est-ce que c'est qui pue comme ça? Un chat crevé ?» Le module de dialogue du T-800, dont on voit quelques étapes de fonctionnement en vue subjective, envisage 6 réponses possibles qui apparaissent sur un menu déroulant. Oui, non, ou quoi? Dégage, merci de revenir plus tard, va te faire foutre, connard, et va te faire foutre. Le logiciel choisit l'avant-dernière réponse, qui apparaît en surbrillance et est effectivement prononcée. Mais chaque réaction envisagée se justifie. La première correspond à la réponse littérale, que le T-800 a tout intérêt à esquiver car l'homme d'entretien pourrait alors chercher à en savoir plus. La deuxième réponse inciterait à continuer le dialogue, sans pour autant avouer que c'est la peau putréfiée arrachée du bras qui sent ainsi. Or, le T-800 évite tout dialogue qui ne fait pas progresser sa mission. Vous écoutez « De l'usage de la parole chez les robots », un texte de Frédéric Landragin, paru en septembre 2023 dans le magazine La Recherche. On arrive donc à des réactions plus agressives, dont le but est d'éloigner le curieux. « Dégage » fonctionnerait probablement, mais l'injure est encore plus sûre. C'est dans l'option retenue. Notons que l'injure choisie est exactement la même que celle prononcée lors de la confrontation avec les voyous du début du film. Il semble donc bien que le T-800 ait appris de ses interactions avec les humains. On constate ainsi à quel point il réagit intelligemment. La science-fiction continue de mettre en scène des robots de plus en plus intelligents. Le major Motoko Kusanagi de Ghost in the Shell, Mamoru Oshii, 1995, en est un bel exemple. Lors d'une scène calme sur un bateau avec son comparse Batou, juste après une plongée sous-marine qui lui permet de contempler son reflet, elle se pose toute une série de questions existentielles sur la vie et la conscience. Les réplicants de Blade Runner et les robots d'Asimov sont égalés, voire dépassés. Les robots fictifs sont également capables d'émotions et de sentiments de plus en plus élaborés. On le voit avec le petit David de AI, Intelligence artificielle, Steven Spielberg, 2001, qui aime profondément et sans condition sa mère adoptive, même longtemps après la mort de cette dernière. Encore plus qu'avec les réplicants, les émotions de David sont visibles tout au long du film, y compris quand il interagit avec son ourson mécanique. Enfin, terminons ce petit panorama avec Ex Machina, Alex Garland, 2014, film dans lequel Ava, femme robot conçue par l'industriel mégalomane Nathan, est étudiée par le programmeur Caleb pour déterminer si elle passe le célèbre test de Turing, qui consiste à évaluer la capacité d'une intelligence artificielle à se faire passer pour un humain à travers un jeu d'imitation. Ava se révèle non seulement très intelligente, mais surtout capable de jouer avec les états mentaux, croyances, désirs, intentions de ses interlocuteurs. Le jeune Caleb n'y est pas insensible et, sans qu'il s'en rende vraiment compte, se fait manipuler. Ava arrive ainsi à s'échapper de l'antre de Nathan et à se fondre dans la foule humaine, son rêve. La science-fiction nous propose donc des robots très diversifiés, non seulement par leur façon de parler, depuis la voix nasillarde et monocorde de Robbie, jusqu'à la richesse et la finesse de celle de Samantha dans Her, Spike Jonze, 2013, mais aussi par leurs compétences linguistiques, dont l'identification de l'implicite et leur façon d'arriver à leur fin grâce au langage. Capable d'apprendre, de résoudre des problèmes, de philosopher et d'exprimer des émotions, il dispose d'une palette de compétences qui s'est considérablement élargie avec le temps. Récemment, notre société a vu apparaître des prototypes préfigurant les futurs robots de compagnie parlants, Roméo, Aldébaran Robotics, Sophia, Hanson Robotics, ainsi que quelques produits aboutis tels que Nao et Pepper, malheureusement très limités au niveau de la parole. Aucun de ces robots ne passe le test de Turing, aucun n'arrive à identifier l'implicite et encore moins à philosopher ou à manipuler son interlocuteur grâce à une rhétorique maîtrisée. On peut leur faire exprimer des émotions, par exemple dire « j'ai peur », mais il s'agira d'une phrase toute faite, énoncée dans une situation où elle semble pertinente, et pas du tout de l'expression d'une émotion véritablement ressentie. Car les robots, par définition, ne peuvent pas avoir d'émotion. Une émotion est un phénomène complexe qui comporte une facette physiologique, puis une prise de conscience qui amène éventuellement à une verbalisation. Quand un humain a peur, par exemple, parce qu'il voit apparaître subitement un T-800, cela déclenche une succession de processus, en commençant par des réactions physiologiques, afflux de sang vers les membres, de manière à se préparer à fuir ou à se battre. Le ressenti exprimé par « j'ai peur » ne vient que dans un second temps. Autrement dit, une émotion s'ancre dans le corps, et les émotions humaines dépendent donc des spécificités de notre corps. Une machine parlante ne peut pas subir les mêmes réactions physiologiques et donc ressentir les mêmes émotions. Plus facile à réaliser, car justement dépourvu de corps, les agents conversationnels, aussi connus sous leur nom en anglais « chatbots », se sont multipliés et font l'actualité depuis l'avènement de ChatGPT, aussi bavard que C-3PO, mais absolument incapable de comprendre ce qu'il dit lui-même et a fortiori de réfléchir comme le font QT, numéro 5 ou Ava. Si l'on peut rapprocher superficiellement C-3PO et ChatGPT, il est en revanche difficile de comparer l'impressionnant Andrew, l'homme bicentenaire, qui acquiert un statut de personne à la suite d'une longue détermination, au robot réel Pepper, qui reste cantonné à répéter encore et toujours les mêmes phrases prédéfinies. La seule ressemblance est physique, et encore, uniquement au début du film. Saisir un contenu implicite. Les paroles des robots de la science-fiction, même maladroites, repose bel et bien sur des mécanismes caractéristiques du dialogue humain. Robbie peut réagir à une question en posant une autre question, de clarification par exemple, comme nous avons tous l'habitude de le faire. Il n'est donc pas rigide au point de réagir forcément à une question par une réponse ou à un ordre par son exécution. Au contraire, il sait manier le langage et ses subtilités pour faire progresser le dialogue et conserver ainsi une sorte de contact social bénéfique à son interlocuteur et à lui-même. De son côté, le T-800 est capable d'identifier un contenu implicite, une intention sous-jacente et de réagir à ces éléments plutôt qu'au contenu exprimé explicitement. C'est un signe d'intelligence linguistique. Frust, au premier abord, le T-800 se révèle en fait plutôt subtil dans son comportement verbal. C-3PO et T-800 nous montrent que le dialogue peut suivre des stratégies différentes qui dépendent de plusieurs paramètres. La situation de communication, l'intention du robot, sa personnalité, etc. En comparaison, les paroles des robots et des chatbots actuels ne vont pas aussi loin. ChatGPT ne suit pas de vraies stratégies de dialogue, mais exprime ce que lui indique un modèle probabiliste, évolué certes, mais reposant malgré tout sur des probabilités. Il est par ailleurs dépourvu d'intentions claires. D'autres chatbots, comme T de Microsoft, ont tenté d'apprendre par l'interaction, alors que T800 a retenu une injure qui lui a ensuite servi à écarter un curieux pour mieux accomplir sa mission. T a retenu des propos racistes qu'elle n'a de toute façon pas compris, ce qui a entraîné son arrêt quelques heures seulement après son lancement, le 23 mars 2016. Il semble donc que l'évolution des robots de la science-fiction n'est pas comparable à celle des réalisations réelles. Dans la majorité des cas, le comportement verbal des robots fictifs ressemble clairement à celui d'un humain, avec éventuellement une mise en forme dégradée, timbre de voix et intonation simplifiée, lexique et syntaxe appauvrie. Mais cette dégradation ne concerne que les facettes les plus tangibles de la communication. L'implicite, par définition non tangible, est traité de manière tout à fait pertinente. On peut voir là un paradoxe. Dans la mesure où identifier et gérer correctement l'implicite est manifestement bien plus complexe que de manier un lexique étendu et une syntaxe correcte. Preuve s'il en est, ChatGPT gère très bien lexique et syntaxe, mais son comportement face à de l'implicite se révèle pour le moins aléatoire. La science-fiction n'a pas anticipé ce phénomène. En revanche, on retiendra qu'elle a anticipé l'apprentissage et le besoin de données en grande quantité. Quant à la fameuse phrase de René Descartes, « Je pense donc je suis », il est clair que son affirmation en toute conscience par un logiciel n'est ni pour aujourd'hui, ni pour demain. C'était « De l'usage de la parole chez les robots », un texte de Frédéric Landragin, paru en septembre 2023 dans le magazine La Recherche.